écoutez Info Club Sandwich.
Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 9 juin et c'est l'heure d'Info Club Sandwich sur Radio Campus Amiens. Vous nous écoutez sur le 87.7 FM, sur le DAB+, ou sur le site radiocampusamiens.fr. Aujourd'hui, on écoute le reportage de Sonia sur les rencontres citoyennes. Pour ma chronique, je vous parlerai de Juin Vert, un mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus. Et aujourd'hui, dans les rendez-vous de la BD, Colline a interrogé Laurie Agusti, autrice et illustratrice. Bien sûr, il y aura de la musique, avec Mort à la poésie de Philippe Catherine et E.O. de Tate McRae. Voilà, vous savez tout du programme et tout de suite, le reportage de Sonia.
C'était la journée nationale d'accès au droit. À cette occasion, le Conseil départemental d'accès au droit de la Somme, qu'on appelle aussi CDAD 80, avec le tribunal judiciaire d'Amiens, ont organisé la première édition d'une rencontre citoyenne qui s'est tenue à l'auditorium du musée de Picardie. Pour cette première rencontre, le thème était la place de la victime. Nous étions plusieurs dans l'auditorium, face au procureur de la République, au président du tribunal judiciaire d'Amiens et face à une avocate qui était là en tant que représentante des avocats. Il et elle ont d'abord fait un point général sur la justice, sur son fonctionnement, etc. Ensuite, il et elle ont pu échanger avec le public. Mais c'est quoi l'accès au droit ? Vous allez entendre l'extrait d'une interview de Manuela Delinière, directrice du Conseil départemental d'accès au droit de la Somme. Elle explique ce qu'est un CDAD et ses principales missions. L'interview avait été réalisée par Aline le 16 juin 2025 et vous pouvez la retrouver en entier sur notre site radiocampusamiens.fr.
Alors un CDAD, c'est un groupement d'intérêt public qui est rattaché en fait au tribunal, au palais de justice d'Amiens et qui est présidé par le président du tribunal judiciaire d'Amiens, Monsieur Brama, qui a pour objectif de coordonner un peu les différents dispositifs d'accès au droit sur le département de la Somme, mais concrètement, c'est de rendre le droit accessible à tous les justiciables. Et ça se traduit par des permanences d'accès au droit implantées un peu partout dans le département, des points justice. L'idée, c'est effectivement d'informer tous les justiciables de manière gratuite et confidentielle sur leurs droits et leurs obligations. On dit toujours « nul n'est censé ignorer la loi », c'est un adage, mais encore faut-il effectivement les connaître. Donc d'où notre principale mission, c'est d'informer sur les droits, mais aussi... Et c'est important, les obligations en tant que citoyen pour que les personnes puissent justement faire leur recours et exercer les droits qu'on leur donne.
Selon le baromètre des droits et de l'accès aux droits en France, réalisé par le Conseil national des barreaux, en novembre 2025, sur plus de 3000 Françaises et Français, 74% affirment avoir accès aux droits et 70% affirment avoir accès à des tribunaux. Mais plusieurs mentionnent des obstacles à l'accès aux droits comme les délais de la justice, le coût et le manque d'informations juridiques. À l'occasion de cette rencontre citoyenne, j'ai pu poser quelques questions à Éric Brama, président du tribunal judiciaire d'Amiens. En tant que président du tribunal judiciaire, quel est votre rôle ?
Je suis avant tout un magistrat, un juge, donc je préside des audiences, et je suis également un chef de juridiction, c'est-à-dire que j'assure un petit peu le bon fonctionnement du tribunal en lien avec le procureur de la République, qui on est tous les deux chefs de juridiction, ça s'appelle la diarchie, c'est-à-dire qu'il y a deux chefs, et on s'assure que, déjà la première des choses, toutes les audiences vont pouvoir se tenir, qu'on a des magistrats pour les tenir, des fonctionnaires pour les tenir. On évalue aussi les magistrats en tant que chef de juridiction. On s'occupe un petit peu du fonctionnement du palais de justice, du budgétaire, de l'immobilier. Il y a un rôle gestion qui s'ajoute au rôle de juge en quelque sorte.
Et donc aujourd'hui c'est la journée nationale de l'accès au droit. Qu'est-ce que c'est l'accès au droit ?
L'accès au droit c'est quelque chose qu'on doit pouvoir tout de suite immédiatement distinguer de l'accès au juge. C'est-à-dire que c'est une première orientation. Les gens ne peuvent avoir des droits que s'ils les connaissent, que s'ils sont correctement orientés. Et les orienter correctement, souvent d'ailleurs, ça va pouvoir éviter l'accès au juge, parce que parfois on va pouvoir leur proposer une conciliation dans un litige civil, de rencontrer un commissaire de justice pour faire exécuter une décision, et puis parfois ils vont renoncer à exercer une action parce qu'ils ont rencontré un avocat dans le cadre des permanences gratuites ou un juriste qui va leur expliquer que oui, ils ont un problème, mais que c'est pas quelque chose qui pourrait être défendu en justice.
Et donc à cette occasion, une rencontre citoyenne a été organisée. Pourquoi avoir pris l'initiative de créer cette rencontre ?
Alors, avec le procureur de la République, on s'est rendu compte que la communication directe avec les citoyens était une voie pour nous utile. Parce que finalement, si vous réfléchissez, la communication autour de la justice, elle se fait pratiquement uniquement autour du commentaire des décisions correctionnelles ou criminelles. Des espaces comme ça où on peut parler de la justice de manière générale et de son fonctionnement, ça n'existe pas. Or, ce qu'a dit d'ailleurs tout à l'heure le procureur de la République, et que j'avais moi-même d'ailleurs écrit dans un édito, les gens qui se disent pas satisfaits de la justice n'y ont pas eu affaire la plupart du temps. Même dans la grande majorité, lorsque on regarde la composition des sondages qui se disent des sondés qui se disent insatisfaits, ils n'ont pas eu affaire à la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils en ont une image qui est donnée par les médias. Et cette image qui est donnée par les médias, elle est axé principalement sur le traitement des affaires correctionnelles et criminelles, alors qu'on a beaucoup d'autres actions, et notamment, on peut dire tout simplement que le tribunal, c'est à 60% des affaires civiles. Donc pourquoi parler que du pénal?
Selon les derniers chiffres de l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, une direction générale du ministère de l'économie et des finances, en 2024, 1,4 million d'affaires pénales poursuivables ont été traitées. Et 1,7 million de nouvelles affaires civiles, sans compter les ruptures d'union, donc divorce, ruptures de pacs, etc., sont introduites au fond. Introduites au fond, c'est-à-dire que la justice va se prononcer sur le contenu d'une affaire, la réévaluer, etc. Contrairement au référé qui correspond à un effet immédiat sur le court terme. Cette rencontre est à destination donc des citoyens et citoyennes.
Oui, absolument. Alors, pour la communication, on n'a pas fait sur inscription, donc c'était un petit peu compliqué de savoir qui allait venir, qui allait pas venir. Puis on n'a pas voulu non plus faire trop de communication pour éviter de remplir des salles avec des personnes qui ne seraient pas intéressées par le sujet de la justice, mais seraient plus intéressées par le sujet de leur situation ou de leur justice. Donc c'est un petit peu un galop d'essai. On va essayer de refaire ça. On va s'appuyer davantage peut-être sur les municipalités pour avoir avec les comités de quartier, etc., des personnes qui représentent un petit peu les citoyens.
Oui, et justement, c'est la première édition. Pourquoi l'avoir axé sur les violences intrafamiliales?
Alors, c'est pas axé sur les violences intrafamiliales, même si les interventions ont été plus là-dessus. C'était sur la place de la victime. Bon, on a voulu faire ça parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce sujet, de la place de la victime. Nous, on en a fait avec le procureur un projet de juridiction dans le sens où, dès qu'on peut, on essaye de voir ce qu'on peut faire pour améliorer le traitement, l'orientation, le conseil, le positionnement, en fait, qu'on peut donner à la victime. Et donc c'était cette idée que d'aller se confronter aussi aux citoyens sur ces sujets. En très peu de temps, on a fait un conseil de juridiction avec tous nos partenaires sur le sujet. On a fait un copil de proximité en interne avec nos équipes juridictionnelles pour voir ce qu'on pouvait améliorer. Et là, donc, une rencontre citoyenne.
Et qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers cette rencontre?
Alors, transmettre, non, vraiment, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on cherche un petit peu à prendre le pouls. Hein. Et puis, c'est vrai, quand vous dites transmettre, en tout cas, à expliquer des choses pour que les gens, on l'a vu hein, là tout à l'heure, pour que les gens ne partent pas avec des fausses idées. Et chacun a sa propre idée de ce qu'il serait souhaitable pour lui. Mais en fait, les équilibres des choses sont plus complexes. Hein. En matière de justice, y compris en matière pénale avec les victimes, ben, y a des équilibres à trouver. Hein. Nous, on n'a pas à prendre des partis trop francs pour l'un ou pour l'autre. La justice, c'est justement l'équilibre.
Vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a des personnes qui ont moins confiance en la justice, pas beaucoup confiance en la justice. Il y a un chiffre du ministère de la Justice qui date de 2024 qui dit que 49% des citoyens et citoyennes disent avoir confiance en la justice. Selon vous, en tant qu'institution judiciaire, ce serait pour quelles raisons et comment est-ce qu'on pourrait y remédier?
C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Les gens ont une image du fonctionnement de la justice. Sur ces 49%, en tout cas dans le dernier sondage que moi j'avais vu, il y avait 77% de personnes qui n'avaient pas eu affaire à la justice. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. Puis quand on interroge avec des questions précises les gens sur ceux qui ont eu affaire à la justice, eh ben ils expliquent qu'ils ont eu l'impression d'être écoutés, etc. Donc bon, cette insatisfaction, elle vient souvent de deux critères hein, qui sont rabattus à longueur d'onde, on va dire ça comme ça, puisqu'on parle à la radio, mais peut-être plus dans les médias télévisuels, on va dire d'information continue et tout. La justice serait laxiste, la justice serait lente. Bon, moi je peux vous dire qu'en tout cas au tribunal judiciaire d'Amiens, on a des délais qui sont très courts. Et puis la justice, elle a besoin de temps. Elle a besoin de temps, justement, et ce temps est souvent réclamé par les parties elles-mêmes. Les plaideurs, comme on les appelle en matière civile, il faut qu'ils se mettent en état. Il faut que l'avocat, qui représente une partie, puisse connaître la position de son client sur la thèse défendue par son adversaire, etc. etc. Donc ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire toujours de manière expéditive. D'ailleurs, une justice expéditive, en réalité, personne n'en veut. Et puis sur le laxisme, ça a été dit tout à l'heure, bon, on a quand même aujourd'hui de plus en plus de sanctions avec des peines fermes. Les prisons sont suroccupées. À Amiens, c'est 230% de suroccupation, c'est-à-dire que on a presque 600 détenus alors qu'il y a 280 places. Hein. Faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, on a une réponse pénale qui est quand même assez ferme. À Amiens aussi, ce qu'on peut dire, c'est que 25% des affaires correctionnelles sont orientées en déferment, c'est-à-dire en les gens vont au tribunal directement après les mises en cause vont directement au tribunal après la garde à vue. Hein. Donc, c'est une réponse qui est forte. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez, parce que les gens ont comme sentiment, c'est parce qu'on commente une affaire, et on dit voilà, là il s'est passé ça, etc. Et là, la personne est sous contrôle judiciaire, ben, les gens voudraient tous qu'ils soient en détention. Mais en réalité, si c'était un proche, on peut toujours penser qu'on n'a pas de proche qui commettent des infractions, ben, on ne voudrait pas qu'il aille en détention. Voilà, bon, alors on met des gens en détention, d'autres on ne l'en met pas, on a des critères qui sont prévus par la loi, et ça aussi, on pourrait en parler, ça pourrait d'ailleurs faire l'objet, la détention et le contrôle judiciaire, d'une prochaine rencontre citoyenne pour que chacun comprenne comment on sépare les deux sujets.
En mai 2026, l'INSEE publie une étude dans la thématique « Confiance de la population dans les institutions » et plus précisément dans la justice. Selon l'Institut, en 2024, 44% de la population dit avoir confiance dans les institutions qui concernent la justice. Pour aller plus loin, en octobre 2025, le SSER, qui est le service de la statistique des études et de la recherche, constate en 2024 que la population a moins confiance dans les institutions de la justice que dans d'autres institutions. Parmi celles que l'étude cite, on retrouve par exemple la gendarmerie, le système public ou encore la police. Selon le SSER, en 2024, 49% de la population dit avoir confiance dans la justice, 86% la trouve trop lente, 78% la trouve incompréhensible et 74% la trouve coûteuse. Là, c'était la première édition. Comment est-ce que vous voulez que les rencontres évoluent à l'avenir ?
Moi, j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. Hein. Là, il faut déjà qu'on trouve à nouveau une date, un thème, etc. Mais je vous ai un peu dit aussi tout à l'heure que je souhaitais qu'on s'appuie davantage sur les municipalités qui ont leur réseau avec les comités de quartier dans les villes importantes. Et puis même, vous faites dans une petite ville, le maire est peut-être capable de dire, ben voilà, moi j'ai tel représentant, puis il y a l'équipe municipale, etc. L'idée, c'est vraiment d'être confronté à des opinions des citoyens, pour ou pas d'ailleurs, lui dire qu'il a raison ou tort de penser ce qu'il pense. Et puis il a le droit de regarder son avis d'ailleurs. Mais nous, on essaye de lui expliquer pédagogiquement ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi la loi dit ça et pas autre chose.
Et à chaque fois, ce serait à l'occasion de la journée nationale de l'accès au droit ?
Non, pas du tout. Non. Là, on va vraiment décider de coupler les deux, mais c'est pas forcément. Chaque année, pour les journées nationales d'accès au droit, on fait des choses différentes. L'an dernier, on a fait des événements partout sur le territoire départemental, pour montrer qu'on avait un maillage territorial important, pour montrer le maillage territorial dans le département. Il y avait un événement à Roye, un événement à Péronne, un événement à Amiens, bien sûr, un événement. Enfin voilà, on a fait une petite chose comme ça.
D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Merci, madame.
Je fais de ma vie un chef-d'œuvre que l'on visite pour 100 francs tous les 2 ou 3 ans. J'écrase des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Je marcherai nu sur le pont neuf le 7 avril de 2009. Criant mort la poésie, mort la poésie, chef-d'œuvre en buvant des alcools blancs dans des endroits très déroutants. Je nagerai jusqu'à Tunis le 7 avril de 2010 en criant ma
venez d'écouter « Mort à la poésie » de Philippe Catherine. Juin est un mois important dans l'année, d'une part puisque c'est le mois des fiertés, mais il est également dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus. En France, près de 3000 femmes sont touchées par ce cancer et 1100 d'entre elles en meurent, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes de moins de 45 ans. Pourtant, grâce à un dépistage régulier entre 25 et 65 ans, ce cancer pourrait être évité dans 90% des cas. Le dépistage concerne toutes les femmes de 25 à 65 ans, que vous soyez vaccinées ou non contre le papillomavirus, aussi appelé HPV, que vous soyez ménopausée ou non, et que vous ayez des rapports sexuels ou non. Le cancer se développe très lentement et peut apparaître plus d'une dizaine d'années après l'infection par un virus HPV. C'est pour cela qu'il est important de se faire dépister régulièrement. Pour être efficace, le dépistage doit être réalisé tous les 3 ans entre 25 et 29 ans, et tous les 5 ans entre 30 et 65 ans. Après 65 ans, bien sûr, il est toujours possible de se faire dépister, mais c'est désormais aux femmes d'aller vers leur professionnel de santé. Mais alors, comment se passe concrètement un dépistage? Le ou la professionnelle de santé effectue un prélèvement avec un frottis au niveau du col de l'utérus. Il est ensuite analysé pour repérer s'il y en a les lésions précancéreuses avant qu'elles ne dégénèrent en cancer. Chaque année, 32 000 lésions précancéreuses sont ainsi détectées. Plus on les détecte tôt, plus les chances de guérison sont importantes et moins les traitements sont lourds. Mais 40% des femmes ne participent pas encore ou pas régulièrement au dépistage des cancers du col de l'utérus. Si elles ne le font pas, ce n'est pas forcément par manque de volonté. Ça peut être lié à un problème d'accessibilité aux professionnels de santé. Certaines n'ont tout simplement pas le temps dans leur quotidien chargé et relèguent souvent leur santé au second plan. Et d'autres ne se sentent pas concernées, notamment les femmes de plus de 50 ans, dont le suivi gynécologique peut être moins régulier. Pour permettre à plus de femmes de franchir le cap, l'assurance maladie envoie une invitation à se faire dépister par courrier. Dans ce cas, l'analyse du test du dépistage est prise en charge à 100% sans avance de frais sur présentation de l'invitation. Grâce au dépistage régulier, 9 cancers sur 10 pourraient être évités. Et s'il est associé, à la vaccination contre les HPV, on est à 97% de diminution du risque de cancer. L'OMS préconise une couverture vaccinale supérieure à 90%. En France, on est plus entre 50 et 60% de couverture vaccinale. Ce vaccin concerne autant les filles que les garçons, parce qu'eux aussi sont porteurs de virus et peuvent le transmettre lors de relations sexuelles. Depuis décembre 2025, ce vaccin est remboursé à 100% pour les jeunes de 11 à 26 ans révolus, mais il est idéal de le faire entre 11 et 15 ans. Voilà, j'espère vous avoir un peu plus éclairé sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Maintenant, on écoute l'interview de l'autrice et illustratrice Laurie Agusti, qui a notamment écrit Rouge Signal. Dans cette BD, elle mène deux histoires diamétralement opposées. D'un côté, un groupe de jeunes femmes soudées dans un nail bar, partageant rire et confidences. De l'autre, Alexandre, un jeune homme solitaire et frustré qui s'enferme peu à peu dans les discours masculinistes qu'il voit sur les réseaux sociaux. Au fil des pages, on apprend qu'il vit juste en face du salon de beauté, une révélation qui inaugure un mauvais présage.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette bande dessinée qui parle donc d'un jeune monsieur qui va vouer une haine, enfin qui va se radicaliser de plus en plus contre les femmes qui sont notamment dans le salon en bas de chez lui?
Alors en fait, c'est un récit qui est entre deux histoires. Il y a une histoire où on suit en effet Alexandre et ça a monté de la frustration et de la haine et de la violence. Et de l'autre côté, un salon d'une onglerie avec quatre artistes qui travaillent là et qui discutent leur vie. En fait, les deux récits se croisent à différents moments de l'histoire.
Et d'où t'es venue cette envie de raconter cette histoire ?
En fait, à la base, ce qui m'intéressait, c'était le rapport au groupe, de l'individu et du groupe, parce que moi-même, je le questionnais dans mon rapport à ça, et à la fois dans son utilité d'un point de vue, je ne sais pas, militante, syndicale, et en même temps, l'aspect toxique que ça pouvait avoir aussi. Donc j'étais dans ces interrogations-là, et c'était en 2018, et en faisant des recherches sur le groupe, et sur les sectes, et sur... l'emprise, je suis tombée sur la manosphère, c'est-à-dire en fait toute la sphère masculiniste qu'il y a en ligne et sur les différents courants. Et en fait, en 2018, personne en parlait et j'ai découvert en fait l'ampleur que ça avait au niveau international.
Combien de temps de recherche ça t'a pris ?
Et du coup, c'est compliqué de calculer parce qu'en parallèle, je travaillais sur mes albums jeunesse, mais j'ai commencé du coup en 2018 et j'ai terminé en 2025. Donc. C'est à peu près ça que ça a pris, quoi.
Et justement, donc on te connaît beaucoup pour tes albums jeunesse. Pourquoi ce changement de style ? Parce que c'est pas trop jeunesse, là, Rouge Signal, pour le coup.
Mais déjà, j'ai pas un dessin et une écriture qui est très jeunesse, je pense, même dans mes albums. Et je fais pas une grosse distinction, en fait, entre littérature jeunesse et littérature adulte. Mais là, ce sujet-là, en effet, m'a fait bifurquer par un truc où les enfants ont été, de fait, exclus du lectorat, quoi. Parce que c'est trop violent et c'est assez complexe.
Et donc les masculinistes, oui, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'autres bandes dessinées aussi qui sortent et qui parlent de thématiques donc différentes, parce qu'il y a quand même plusieurs choses à aborder autour de ce sujet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de continuer ou tu as envie de te jeter sur un autre projet?
Ah, j'ai pas du tout envie de continuer. Je fais de la bande dessinée d'un point de vue de la fiction et d'un côté artistique. Et du coup, c'est pas du militantisme. Donc, non, j'aurai un autre sujet et je travaillerai sur autre chose maintenant.
Est-ce que tu as du coup dû, quand tu as fait tes recherches, est-ce que tu as dû intégrer, souvent on le fait de façon anonyme, rejoindre les forums pour voir un petit peu ce qui se raconte, ce qui dit. Est-ce que ça tu l'as fait ou pas du tout ?
En fait, j'avais même pas besoin de m'inscrire. Tous les forums sur lesquels j'ai été, ils sont libres d'accès, donc il suffit d'aller lire ce qui se dit. Ils le prennent en compte, enfin ils savent en fait qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec eux qui vont lire les forums. Donc c'est tout le monde est au courant.
Est-ce que tu as eu des retours du coup sur Rouge Signal, là, donc t'es au rendez-vous de la bande dessinée, est-ce que tu as eu des retours sur sur ta BD ?
J'ai eu différents retours de différents lectorats, certains de jeunes femmes, certains d'hommes. Chacun a un avis pas tout à fait le même sur le personnage principal. Le niveau de détestation de ce personnage dépend des gens. Moi, je le déteste pas au début, en tout cas, mais y en a qui le détestent.
C'est vrai ?
Ouais.
Donc toi, tu le détestes pas, et pourtant, il a quand même, vers la fin, c'est vrai qu'il prend une place qui fait qu'on n'a pas forcément envie de l'apprécier non plus. Mais quand tu l'as créé, tu l'as jamais détesté ou autre ?
Non. Déjà, moi, je savais que j'allais passer un certain temps avec lui, donc il fallait pas que je sois juste dans la détestation, parce que sinon c'est quand même très très long. Et moi, j'ai essayé de le comprendre. Du coup, je l'écrivais, et en même temps, j'ai essayé de le comprendre, et j'ai essayé d'en faire quand même un personnage un peu complexe, qui soit pas uniquement binaire. Mais du coup, certaines personnes n'ont, n'ont pas cette patience.
Sur le style, du coup, tu parlais de ton style qui n'était pas forcément pour la jeunesse ou adulte. Voilà. Comment est-ce que toi, tu le qualifierais et comment est-ce que tu travailles? C'est quoi tes procédés
Ben, je travaille toujours à la gouache parce que c'est une peinture à l'eau qui permet d'avoir les couleurs les plus pures. En fait, c'est une peinture où il y a très peu d'adjudants, enfin il y a de trucs en plus. Et là, c'est une gouache que je passe sous l'eau, ce qui fait que ça colore le papier et ça laisse un papier qui est coloré, qui donne, ça fait ressortir la fibre du papier, et ça donne des effets un peu. Et du coup, en termes de style, je sais pas trop, mais en tout cas, la couleur est très importante dans tous mes livres.
Et petite dernière question, peut-être sur le titre, Rouge Signal, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ?
En fait, c'était pas le titre initial. Le titre initial, c'était en lien avec un tag qui est croisé par différents personnages pendant la BD, qui est « Ouvre tes yeux, pas ta chatte ». Et quand il s'agit de publier le livre, mes amis, et mes amis notamment libraires, m'ont dit « Mais en fait, ce titre, ça marche pas du tout, c'est une catastrophe, faut prendre autre chose ». Donc là, j'ai réfléchi et j'ai été vendeuse dans un magasin de matériel d'art et il se trouvait qu'il y avait une des couleurs d'une des bombes qui s'appelait Rouge Signal et ça m'est revenu et je me suis dit « Ah, mais c'est pas mal parce que ça fait écho, ça pourrait être une couleur de vernis et en même temps, ça pourrait faire allusion à la pilule rouge qu'il y a dans Matrix et qui est reprise par les Incels. » Et donc, on s'est arrêté sur Rouge Signal.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Colline pour cette interview. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich, mais pas de panique, on revient dès demain. Comme d'habitude, on se quitte en musique avec EO de Tate McRae. Excellente journée sur Radio Campus Amiens. Watching me, so I'm moving on him just so you can see. Told you I was gonna get you right back. Oh, you don't really like that. I'm yours again when you walk away. Know if you leave, I ain't gonna stay. When I'm doing good, you get me off track. And I guess I kinda like that. You make me really, really good at making bad decisions. All my friends know where to look every time I go missing. 7 texts and 2 missed calls. It's always the same with you. Trying not to feel a connection, but oh my god, it's kinda tempting. You say, can we leave now? I don't think we should. Through the back door, that won't end good. Out of my place, shit, you know I would. Then I'll follow you out of nobody knows. You make me really, really good at making bad decisions. All my friends know where to look every time I. Bye.